Spécial. Appel sur l'actualité est à Dakar. Juan Gomez.
Et oui, à Dakar, dans les studios de RFI Mandincamp et RFI Full Day pour une émission spéciale consacrée à la diversité linguistique en Afrique. Je vous le disais tout à l'heure, sur le continent, on parle un peu plus de 2000 langues. Alors comment, dans votre vie quotidienne, ces langues cohabitent entre elles et avec le français? Dites-nous si dans votre pays, vous constatez une volonté de promouvoir cette diversité, vos témoignages, vos réactions, au téléphone évidemment, mais également sur nos réseaux sociaux. J'ai sous les yeux le commentaire d'Yves. Il nous a écrit de Kisangani. Il nous dit qu'en République démocratique du Congo, quelques communautés utilisent encore leur langue, notamment le Congo, les Luba, les Nandé. Pour les autres communautés, parler leur propre langue est considéré comme une régression. Il y a Patrick qui nous a écrit d'Ouganda. Il nous dit « Ce qui me marque le plus dans cette diversité linguistique en Afrique, c'est le fait que derrière toutes les frontières de nos pays, il y a des langues qui sont transnationales. » Ça, c'est formidable, professeur qui est avec nous, le professeur Farid Sylvain. Le nombre de langues transnationales qui sont parlées dans de nombreux pays.
Je crois que c'est un point très positif. D'ailleurs, ça, c'est le point fort de l'Académie africaine des langues. Nous avons commencé par travailler sur les langues transfrontalières, véhiculaires, pour contribuer à l'intégration africaine. Parce que les Africains sont multilingues et ils parlent d'une langue à l'autre selon les circonstances, les contextes, et c'est une bonne chose.
Avec nous également en studio ce matin, Tidiane Maloum Barry de la rédaction Full Day de RFI et Oumarou Yerou de la rédaction Mandincamp de RFI. On va repasser au standard. J'ai le plaisir d'accueillir Edgar. Bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à vos invités.
À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous, vous avez appris quelques langues sur le tas, disiez-vous, au standard?
Oui, moi je suis originaire du centre de la Côte d'Ivoire, donc je suis baoulé. Je parle parfaitement le baoulé. Je parle aussi le Gyula, que j'ai appris sur le tas parce que c'est une langue commerciale. Oui. Et quand on va au marché, la plupart des vendeuses et des vendeurs, ils sont tous du nord du pays, à 98%, et ils ne s'expriment qu'en Gyula.
Oui. Alors, donc, je vous retrouve dans un instant, Edgar, professeur Farid Silatka. Il y a des langues comme ça qu'on peut dire qui sont nécessaires pour le commerce plus que d'autres langues?
Oui, par exemple, au Sénégal. Le Wolof a été porté aussi par le commerce. Mmh. Parce que les gens qui venaient de l'arrière-pays en milieu urbain, ils devaient parler Wolof pour pouvoir commercer. Jusqu'à présent, c'est une langue commerciale, entre autres. Une langue n'est pas naturellement commerciale, mais c'est la dynamique des langues et de la société qui font d'une langue commerciale et se faisant elle est une langue bien partagée.
Oumarou Yerou, de la rédaction Mandincamp.
Oui, mis à part les langues de l'ancien colonisateur qui ont été imposées aux pays africains et qui ont eu beaucoup de poids, je crois que toutes les langues aujourd'hui qui représentent un grand poids, mis à part peut-être le Fulfulde aussi, c'est surtout pour les enjeux commerciaux. Parce que le commerce a une place importante et donc tous ceux qui font le commerce, lorsqu'ils circulent de pays en pays, la langue qu'ils parlent, du coup ceux qui viennent acheter sont obligés d'interagir avec eux aussi dans la langue. Et Juan, si vous permettez, moi je souhaiterais réagir par rapport au propos d'un auditeur qui disait que les langues africaines sont importantes parce que les populations s'expriment, ils sont à l'aise dedans. Et moi je dirais mieux parce que les gens sont aussi complexés quand ils parlent les langues étrangères, notamment le français, l'anglais et autres. Et quand ils parlent, il se soucie d'abord de est-ce que je ne veux pas faire des erreurs, est-ce que je ne veux pas mal parler cette fois. Et puis, quand les populations africaines ils s'expriment, ils font des erreurs, les gens s'en moquent.
Ah oui.
Et on les classe dans une catégorie. Bon, toi, tu ne parles pas bien français, tu ne peux pas prendre part aux instances décisionnelles, ce qui est terrible.
Et alors, je voudrais qu'on retourne à Abidjan avec Edgar qui est toujours en ligne.
Oui, donc, comme je le disais, on a appris cette langue-là qui est une langue commerciale sur l'État. Il faut aussi préciser que cette langue, le Gyula, qui est parlé en Côte d'Ivoire, est aussi parlé au Mali et il est aussi parlé en Guinée. Donc ce serait vraiment très intéressant si ces trois pays pouvaient s'entendre pour faire de cette langue une langue nationale pour ces trois pays. Peut-être que ça sera le Lingala ou bien le Swahili de l'Afrique de l'Ouest.
Ah, voilà. Qu'en pense justement le président de l'Académie sénégalaise des langues que vous êtes, professeur Farid Silatka?
Voyez-vous, les Africains parlent au quotidien leur langue, pas les langues européennes. Mmh. Et de plus en plus, ça s'affirme. Et certaines langues commencent à émerger. Et c'est pourquoi il est extrêmement important d'identifier les langues transnationales pour en faire des langues officielles entre les États et pouvoir jouer un rôle essentiel dans l'intégration africaine.
Rama nous a écrit un petit mot sur la page Facebook de l'émission. Au Sénégal, le français cohabite avec une multitude de langues. Dans mon quotidien, je parle français, dans mes activités professionnelles et académiques. Dans la rue, je parle wolof. En famille, je parle diola, c'est la langue parlée en Casamance, au sud du Sénégal, dont je suis originaire. Et je comprends un peu le Bambara pour avoir vécu un moment au Mali, nous dit cette auditrice. Merci. On repasse au standard. 33 9 693 693 70. Bonjour Abdel.
Oui, bonjour Anne. Bonjour à tous vos invités.
Merci. Vous êtes à Conakry, en Guinée. On vous écoute. Vous disiez au standard qu'en Guinée, plus de 70% de la population est peule. Et donc, forcément, il y a des répercussions linguistiques.
Oui, bien sûr. Moi, personnellement, je suis un peule, originaire de la Guinée. D'accord, je parle Poulard très bien, je parle aussi le Soussou qui est de la Basse-Côte, et je parle aussi Malinké qui est de la Haute-Guinée. Bon, en famille, nous parlons le Poulard avec toute la famille. Même dans l'administration ici en Guinée, c'est le français qui est la langue officielle, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de nos enfants. À l'administration publique, c'est les langues locales qui sont employées souvent au marché, dans la rue, donc ce qui est très regrettable. One, c'est que de nos jours, on n'enseigne pas nos enfants ces langues dans les différentes écoles. Ce qui est très regrettable, c'est, comme vous le savez très bien, après l'indépendance de la Guinée en 58, ces langues, que ce soit Soussou, Peul, Malinké, ces langues ont été enseignées dans nos écoles. Ce qui est regrettable aujourd'hui, ces langues ne sont plus enseignées.
Abdel, il y a Tidiane Maloumbari de la rédaction Foulfoudé qui vous écoute. Vous avez envie de réagir, de commenter?
Oui, justement, déjà le mot Poulard, c'est l'autre nom de la langue Foulfoudé. Oui. En Guinée et au Sénégal, ça s'appelle comme ça. Et puis, ce qui est important, c'est qu'en Guinée, il y a eu un moment donné où on a enseigné la langue. Mais la politique, je pense que le gouvernement avait très mal préparé cela et ça gardait de mauvais souvenirs. Sinon, la langue les langues guinéennes ont été enseignées à l'école pendant très longtemps. Et ça s'est arrêté avec la mort de Sékou Touré. Quand l'Ansana Conté est venu, on a constaté que les gens étaient un peu en retard par rapport à la langue française. Donc, on a francisé tout.
On a privilégié la langue française.
La langue française, en fait, justement, parce que c'est la langue d'ouverture aussi vers le monde. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des initiatives, ça et là, même si l'État ne fait pas encore les choses, mais il y a des associations en Guinée, par exemple, comme Agipelin, qui donne des cours et puis qui édite des livres par-ci, par-là. Donc, quand même, la matière est là pour ceux qui veulent apprendre la langue. Et puis, il y a énormément les médias aussi qui véhiculent cette langue-là. Oui. Et l'arrivée des réseaux sociaux aussi a contribué à l'utilisation de ces langues-là. Parce que même si c'est en jouant, parfois on s'écrit en peul, en poulard, par exemple, ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'on peut commencer une phrase en poulard et la terminer en français et au milieu un mot d'une autre langue.
Et ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Il y a des gens parfois comme ça qui ne maîtrisent pas très bien la langue ou bien qui veulent jouer, puis qui veulent montrer qu'ils maîtrisent aussi toutes les langues qui font ça. Oui.
Professeur Faris Silatka.
Non, je voudrais qu'on se rassure parce que les langues africaines de plus en plus sont enseignées à l'école. Je le répète aussi, ici au Sénégal, on a une bonne expérience qui est en cours.
Oui, mais alors, il ne faut peut-être pas faire du cas sénégalais une généralité. Non, visiblement, non, les auditeurs ont l'air de s'en plaindre.
Au Mali, ça a été fait. Le Niger, ça a été fait. Au Nigeria, ça se fait. Au Ghana aussi, et partout en Afrique.
C'est une bonne nouvelle. On repasse au standard. Ah oui, alors allez-y, mon cher.
Je voulais réagir par rapport au propos du professeur Faris Silatka. Malheureusement, les expériences pilotes n'ont pas été généralisées dans beaucoup de pays. Le Sénégal, je n'en connais pas. Par exemple, dans mon pays, au Burkina, l'expérience a été faite en 1994 et ça donnait de très bons résultats. Les enfants, ils faisaient le CEP à partir de la cinquième année d'enseignement. Ils avaient un très bon niveau en français et dans la langue d'enseignement de la langue africaine.
Oui.
Mais ça n'a pas été généralisé, malheureusement.
Malheureusement. Allez, on repasse au standard avec Josué qui est à Kinshasa. Bonjour Josué.
Bonjour Juan et bonjour à tous les invités.
Comment dit-on bonjour en Lingala?
En lingala, pour dire bonjour, on dit mbote.
Mbote. Je vous dis mbote parce que vous disiez au standard que tout le monde à Kinshasa parlait lingala.
Exactement, Juan. À Kinshasa, la langue véhiculaire, c'est exactement le lingala. Parce que si vous ne savez pas parler lingala à Kinshasa, vous risquez d'être déboussolé parce que ce n'est pas tout le monde qui échange facilement en français. Voyez. Donc c'est la langue où vous pouvez rencontrer cette langue partout, au marché, même en famille, les gens parlent en lingala et tout. Mais pour mieux discuter aussi avec les étrangers qui viennent ici à Kinshasa, j'ai vu des Chinois, des Indiens et des Libanais qui apprennent d'abord le lingala. Parce que là, il faut vendre, il faut acheter, tout ça, c'est pour dialogue, mais Kinshasa, il faut vraiment parler en lingala.
Alors, vous disiez que les étrangers qui s'installent à Kinshasa, vous avez parlé notamment des Chinois, apprenaient le lingala. Mohamed est avec nous. Bonjour, Mohamed.
Bonjour.
Bonjour,
tout le monde.
Vous êtes Libanais, Mohamed. Vous avez, si j'ai bien tout compris, vous êtes né au Sénégal, vous êtes parti à l'âge de 6 ans en Mauritanie, ensuite vous avez vécu en France. À la vingtaine, vous êtes dit, le Sénégal, pays d'origine, me manque, donc vous vous êtes installé, et ça fait maintenant 35 ans que vous vivez au Sénégal, et vous parlez le Wolof comme un Sénégalais né à Dakar ou un Sénégalais qui vit depuis toujours ici même.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est bien ça. Et en fait, je l'ai appris en fait entre 0 et 6 ans avec les nounous. Et donc, quand je suis revenu à l'âge de 20 ans, c'est revenu très vite. C'est vrai qu'entre-temps, j'avais fait plusieurs passages sur le Sénégal où j'avais tous mes amis et puis mes racines quelque part. J'avoue qu'au départ, ce n'était pas du tout ni commercial ni rien puisque j'étais venu faire mes études au Sénégal. Les échanges étaient très bien parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire.
Pas besoin d'interprète. Et le fait, Mohamed, de parler le Wolof couramment, est-ce que ça vous permet de lever certaines barrières?
Ah oui, tout à fait. Ça permet un rapprochement culturel. Et je vous avoue que, bon, au niveau de Dakar, la majorité des personnes parlent le Wolof et le français.
Oui.
Mais dès que vous voulez aller un peu à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui ne parlent pas le français, donc il est important que vous puissiez communiquer avec eux dans leur langue.
Merci infiniment, Mohamed, de ce témoignage. Bonne journée à Dakar, Omar Ouyérou.
Je confirme avec Mohamed qu'une présence à Dakar sans parler le Wolof, souvent, ça peut être le calvaire. Moi, l'autre témoignage que je voudrais dire, je suis désolé de revenir toujours en arrière,
mais
parce qu'il y a un auditeur en Côte d'Ivoire qui a dit que le fait que le djoula soit parlé en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, ce n'est que ça qu'il a cité comme exemple, que si ces pays pouvaient se réunir pour en faire une langue nationale, ça pourrait être intéressant. L'expérience que moi je voulais dire est que le fait que RFI donc ait décidé de donner l'information dans ces deux langues, notamment en mandinkan et en fulfulde, c'est une très bonne chose parce que du coup les populations se retrouvent. Et je suis convaincu, je vous le dis avec conviction, que l'information donnée en mandinkan est deux fois plus comprise que celle donnée en français. Malheureusement, ce n'est que 2 heures sur 24. J'en veux pour preuve, quand je suis parti tout récemment dans mon pays,
le
Burkina Faso, il y a un ami qui m'a rencontré, sinon je suis allé le voir dans son service, et il a dit, attends, je vais te présenter à mon patron. Il a dit, voici Oumarou Yero de RFI Mandinka. Mm. Et le patron s'est étonné, ah, c'est vous.
Oui.
Ah, on vous écoute chaque jour.
Quelle popularité, alors.
C'est vous, on vous écoute chaque jour. Et du coup, il m'a dit, attends, je vais te présenter. Du coup, on a fait tout le service.
Oui.
Il me présente, voici Oumarou Yero du service Mandinka. C'est même un enfant. Bon, pour parler de mon âge, peut-être. Il dit, on vous écoute chaque jour, on est intéressé de ce que vous faites. Et ça montre, en fait, quelque part, que ce que nous donnons en Mandinka, les gens s'intéressent beaucoup plus à ça dans les pays où la langue est parlée,
qui est diffusé en français. Tidiane Maloumbari, on vous reconnaît évidemment dès qu'on vous présente, vous allez quelque part, ah c'est vous, mais vous partagez cette approche, ce que vient de dire Oumarou Yero sur l'impact de diffuser dans des langues nationales.
Il y a un grand impact, et surtout moi j'ai aussi comme lui un petit témoignage qui nous est venu récemment du Burkina Faso, de Dori, où l'auditeur nous dit, écoutez, RFI Fulfulde nous permet maintenant de distinguer du faux du vrai, parce que nous vivons dans une région où il y a énormément d'informations, de fake news professionnalisées qui circulent aujourd'hui.
Oui.
Donc RFI permet de distinguer et il a même dit dans son témoignage que lorsque nous recevons une information, quelqu'un nous donne une information, on demande, est-ce que vous l'avez eu avec RFI Fulfulde ou vous l'avez eu? Si on dit on l'a eu comme ça, on s'en méfie. Donc on a des témoignages comme ça, et puis surtout aussi il y a des intellectuels qui nous appellent, ce qui est très important. Ils nous disent, écoutez, c'est avec vous qu'on a appris qu'on avait délaissé nos langues, parce que vous nous avez appelé, on voulait nous interviewer, on se rend compte qu'on a des difficultés avec notre langue, alors que c'est notre langue. Donc depuis qu'on est passé sur RFI, on commence à regarder, à étudier, à faire ceci et cela et tout. Donc il y a cet impact-là, et donc des informations vérifiées et tout ça. Donc je pense que l'impact est vraiment très important. aussi pour les journalistes, parce qu'ils ont compris avec RFI, il y a le professionnalisme. Maintenant, il y a même en Guinée, j'ai appris, il y a une association qui s'est réunie, qui vont aller apprendre le polar d'une manière académique pour pouvoir utiliser la même langue dans les radios là-bas.
Donc à travers RFI, Full Full Day, RFI, Mondincan, les populations se réapproprient leur langue. C'est ce que je retiens en tout cas de vos deux témoignages. Certainement le dernier auditeur de cette émission, Mohamedou, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à toute la communauté RFI.
Oumar Ouyero, à votre avis, il appelle d'où ?
Ah, je crois que c'est Burkina Faso.
Ah, bah, c'est bien, vous croyez bien, effectivement. Bonjour Mohamedou, vous êtes à Ouagadougou, nous vous écoutons.
Tout à fait. Oui, moi, au Burkina, en tout cas, et comme dans la plupart des pays de la sous-région, les langues nationales sont très importantes. Nous avons même un ministère qui est en charge de l'éducation et de la promotion des langues nationales. Beaucoup de nos parents ne sont pas alphabétisés. Quand je dis alphabétisés, c'est en français, en anglais ou en espagnol. Donc, pour ces personnes-là, les langues nationales ont été codifiées. Ce qui fait que les chercheurs, les instruments ou les résultats auxquels ils ont abouti permettent aux paysans, par exemple, de s'approprier cette technique-là à travers des instruments qui ont été codifiés dans les langues nationales. Et c'est pourquoi moi, j'estime que c'est une très bonne chose que le gouvernement ait ajouter sur cette particule de promotion des langues nationales à l'éducation, ça permet que le Burkina puisse aller en avant, comme ce qu'on a vu en Asie, par exemple.
Et vous savez, Oumar Ouyérou, de la rédaction RFI Mondincan, vous écoute attentivement et il acquiesce, hein, à tous vos propos.
Tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec lui parce que on a ajouté ce volet de promotion des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale, ce qui est vraiment appréciable, ce qui est vraiment important. Mais le défi continue, hein, parce que toutes les langues n'ont pour le moment pas d'alphabet, toutes les langues n'ont pour le moment pas de vocabulaire, de grammaire. Le défi reste et il faut que les gouvernants donc aillent dans ce sens pour que ces langues soient beaucoup plus instrumentalisées afin d'être enseignées si possible dans les écoles.
C'était le mot de la fin d'Oumar Ouyérou, Tidiane Maloumbari de la rédaction RFI Full Full Day.
Je presse pour ma paroisse en fait, à RFI Full Full Day, c'est... Pour continuer à apprendre, en fait, je me rappelle d'un auditeur qui nous a appelé. Quand il nous a entendu pour la première fois, il dit « J'ai entendu, vous utilisez le mot Fagoudou. Et ça, c'est du polar sénégalais et tout. » Et puis moi, je lui demande « Écoute, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans Fagoudou ? Et comment tu vas appeler économie ?» Fagoudou, ça veut dire économie en full full day.
D'accord.
Donc, il me dit, moi, j'ai dit économie. J'ai dit, mais économie, c'est du français.
C'est
donc,
français.
Il dit, ah bon, finalement, j'ai appris quelque chose avec toi. On a eu la même chose avec le mot Diaïndé. Donc, au début, les gens, quand ils apprennent, parce qu'il faut le dire quand même, les langues africaines ont un champ lexical très rétréci. Et au fur et à mesure, maintenant, nous, ici, on parle de l'économie, on parle de la politique, on parle même de voyages sur l'espace et tout ça. Donc, ça commence à élargir et à ouvrir un peu les langues africaines, notamment le full full day, vers ces univers-là, alors qu'avant, l'utilisation, même s'il y a une énorme production, même anté-coloniale et jusqu'à maintenant, une énorme production en full full day, mais les gens ne lisent pas. Donc maintenant, avec les médias, ça les pousse un peu vers un peu plus de professionnalisation de
merci.
La langue. Quoi.
Merci beaucoup, Tidiane Maloumbari. Professeur Barry Silatka, le mot de la fin.
Je crois qu'il ne faut pas blâmer les langues africaines ni les gouvernements africains. Parce que ce qui se passe actuellement, ça, c'est porteur d'espoir, puisque c'est un processus de recherche. Les langues africaines n'ont pas tout. Elles ont eu leurs orthographes tout récemment, donc il ne faut pas se presser. C'est un processus. Elles commencent à aller à l'école, elles commencent dans l'alphabétisation, etc., etc. Et je crois que RFIF joue un excellent rôle dans ce processus-là actuellement.
Eh bien, on va remercier évidemment nos équipes de RFI Foufoulde et Mondincan de nous avoir permis de réaliser ces émissions ces deux derniers jours avec une spéciale dédicace à Frédéric Gara, le grand patron ici à Dakar. Merci infiniment à tous les trois, en tout cas, d'avoir accepté de dialoguer avec les auditeurs de RFI. Demain, émission spéciale avec Anne Cantenaire. Elle aura le plaisir de dialoguer avec vous tous. Émission spéciale après les révélations de RFI et de 19 autres médias sur l'existence de détournements massifs de fonds publics en RDC. Toutes vos questions, vos réactions sur l'enquête Congo Hold Up. Merci à toute l'équipe ici à Dakar. Il y a du monde. Souleymane Diaye, Moussa Thiam, Jessica Tayeb. Merci à Paris, à Audrey Tayeb, Zenaba Diallo, Fouk Foller, Tiffany Menta, Arès Siradag également. Et Yann Bourdelas. Merci à tous de votre fidélité dans 10 minutes Priorité Santé. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.